Notre radiobarque aujourd'hui avec l'historien David Chanteran. Nous avons dans une première partie évoqué alors la conférence que vous avez faite à Narbonne au Synode sur le thème Napoléon et Venise. Alors c'est une parmi d'autres. Vous parcourez, si j'ai bien compris, David Chanteran, la France en faisant ce type de conférence pour le cercle ou les cercles Napoléon. Expliquez-nous un peu ce dont il s'agit.
Alors ici effectivement, que ce soit à Narbonne ou à Montpellier, c'est pour le cercle Napoléon, mais plus largement j'interviens dans les associations napoléoniennes, j'interviens également en tant que chargé de cours aussi bien à la Sorbonne qu'à Paris-Est-Créteil, qui est une fac cette fois-ci de droit, donc histoire et droit, j'ai les deux casquettes si l'on peut dire, et puis de façon plus générale, effectivement, comme vous l'avez très justement souligné, j'interviens à peu près à travers toute la France et même au-delà pour raconter à la fois l'histoire de cette période et puis plus largement notre histoire de France qui est si belle, qui est si riche, qui est si variée et qui permet justement d'intéresser un certain nombre et un grand nombre de publics dans différents domaines. Et donc l'idée étant de rappeler que cette période en particulier, celle du consulat et de l'Empire, a marqué non seulement bien sûr les Français eux-mêmes, mais a surtout apporté un grand nombre de réformes à travers l'Europe. Qu'il s'agisse par exemple de la numérotation des maisons, du système des égouts, et puis le système métrique qui existait auparavant mais que Napoléon va diffuser, jusqu'à un certain nombre de créations que tout le monde connaît, que soit la Banque de France, les lycées, le baccalauréat, la Légion d'honneur, enfin tant de choses qui permettent justement, avec bien évidemment le code civil, de comprendre que notre France actuelle a rayonné à la fois bien sûr par ses institutions et que parce qu'il y avait aussi des personnages que tout le monde connaît ici, comme Cambacérès, comme Napoléon, mais tant d'hommes et de femmes qui ont fait de cette France d'après l'Ancien Régime eh bien une France tout à fait moderne parce qu'il fallait tout reconstruire et que nous sommes justement sur ces bases encore aujourd'hui.
Alors Napoléon, dans l'imagerie populaire, on le voit souvent guerroyer, on le représente d'ailleurs comme ça, mais il semble qu'entre deux batailles ou entre deux guerres, il se mettait au travail pour construire le pays. Ça, c'est une partie qui est moins connue peut-être.
Bien sûr, elle est moins connue et c'est tout le sens de ces conférences, c'est de rappeler tous les aspects. Bien évidemment, les batailles, encore aujourd'hui, certaines des batailles de Napoléon sont encore étudiées dans les écoles de guerre. Elles le sont aussi,
au
par exemple,
tactique,
au niveau tactique, au niveau même de la stratégie, de la façon dont on a amené les armées sur le champ de bataille et la façon dont Napoléon ensuite conduit effectivement le sens de cette journée de combat. Mais plus largement, effectivement, vous avez raison, Napoléon c'est aussi un homme civil, un homme qui a aussi eu des idées de réforme, de création politique et qui a voulu faire en sorte que des institutions, ce qu'on appelait des masses de granit finalement, permettent au quotidien des Français et plus largement européens, parce que l'Empire, au moment où il est le plus vaste, contient plus de 130 départements. Et donc cet empire-là, il est très important dans son influence qu'il a encore aujourd'hui. Donc l'Europe que nous connaissons, qui a bien sûr connu beaucoup de bouleversements ensuite, eh bien il a eu un moment finalement d'unité au moment de l'Empire. Alors bien évidemment, c'était à marche forcée et dans des conditions peut-être difficiles pour certains, mais au contraire, pour d'autres, c'était aussi un moment de libération et Napoléon a apporté un grand nombre de choses, en particulier, je vous le disais, le code civil, qui apporte justement l'égalité pour tous entre les citoyens, sans distinction ni de race, ni de religion, ni de quelque autre élément que ce soit.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il aurait laissé un certain nombre de traces relativement indélébiles.
Exactement. Et c'est notamment le cas, je vous le dis, dans certains nombres de pays. Pour vous donner juste un exemple, dans l'hymne polonais, encore aujourd'hui, on cite Bonaparte comme étant l'exemple qu'il fallait suivre pour les armées de libération. Ça n'est pas le cas dans notre Marseillaise, on le sait pourquoi, parce que la Marseillaise était faite avant, mais c'est pour dire que cet héritage napoléonien, il est très vaste. Alors bien sûr, il y a des éléments de contradictoires et des polémiques qui sont liées à son exécution d'un certain nombre d'éléments. Mais plus largement, je pense que à l'extérieur, et en particulier à l'étranger, même lorsqu'on va au-delà des mers, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie, au Canada, Napoléon reste un exemple du personnage qui a rendu possible un certain nombre d'éléments. Il le disait d'ailleurs lui-même, impossible n'est pas français.
Oui, oui, c'est fait. Enfin, il va au-delà du réel et c'est un mythe. D'ailleurs, on peut imaginer que aucun scénariste auparavant n'aurait osé imaginer un tel destin, peut-être.
Exactement. Et c'est ça qui est assez, assez fou. Je parlais tout à l'heure de son départ de la Corse. Il quitte la Corse en 1793. 11 ans après, il se couronne et il est sacré par le pape à Notre-Dame de Paris. Et 11 ans après ce sacre de 1804, il a tout perdu. Comme une sorte de météore dans le ciel, comme un météore donc dans l'histoire, il a finalement tout remporté et tout perdu en très peu de temps. Et c'est ce qui rend, je crois, le côté passionnant du personnage, de ce destin hors du commun, qui donne aussi un espoir pour les plus modestes en se disant, mais avec la volonté, avec le travail, parfois avec un peu de chance, il le disait d'ailleurs lui-même, il était baigné et couronné par une bonne étoile, eh bien ça donne aussi un résultat tel qu'on le connaît. Effectivement, aucun scénariste de cinéma n'aurait imaginé une telle destinée.
Oui, voilà. Et parmi les traces, je crois, par exemple, il y a aussi la Bavière en Allemagne, mmh. dont il avait fait un royaume. Mmh. Et il a apporté, il a marqué cette partie de l'Allemagne actuelle, d'un peu du sceau de l'administration française.
Exactement.
Et il en reste des traces encore.
Il en reste des traces, comme il en reste, je le disais tout à l'heure, en Pologne, comme il en reste par exemple aussi dans ce qu'on appelait à l'époque les provinces illyriennes, qui sont en fait les côtes dalmates, qui vont donner naissance ensuite à la Yougoslavie un peu plus tard. Donc toutes ces administrations françaises vont surtout apporter un grand nombre de, non seulement de libertés, mais surtout permettre à la langue locale d'exister, alors que parfois elle était sous le joug d'un certain nombre de puissances, en particulier de l'Empire autrichien. Donc Napoléon, il donne cette liberté, et lorsqu'il est arrivé en Égypte, ça a été exactement le même cas. Il a fait un conseil avec les Égyptiens eux-mêmes, et ensuite il leur a laissé, entre guillemets, les clés de cette organisation. Oui. Et bien c'est à cela qu'on fait référence, en particulier à l'étranger, alors qu'aujourd'hui, en France, on a plutôt tendance à le voir comme un précurseur des dictatures du XXe siècle, alors que c'est un anachronisme terrible. Bien au contraire, il était l'homme de la liberté. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'un grand nombre de monarchies autour de la France se sont alliées pour justement battre cette mise à mal d'un système aristocratique qu'ils avaient eu tant de mal et tant de difficultés à mettre en place.
Oui, c'est-à-dire Napoléon jeune est un libérateur, mais est-ce que plus tard il est toujours ressenti comme ça ?
Alors c'est vrai, les choses vont changer effectivement à partir du moment où il envisage une dynastie à part entière, où il se marie avec la fille de l'empereur d'Autriche, donc Marie-Louise de Habsbourg, et à partir de ce moment-là, eh bien effectivement son l'ambition va devenir un peu dévorante, mais il n'en demeure pas moins qu'il restera toujours combattu pour ses idées et l'application qu'il va en faire. Après, c'est vrai qu'il va installer ses frères et sœurs sur les trônes et les royaumes, finalement, ou les principautés, mais il n'en demeure pas moins qu'il reste quand même le symbole même de cette France républicaine. D'ailleurs, on l'appelait le Robespierre couronné pour certains, qui essayaient de le critiquer. Pour d'autres, il est une sorte de Louis XIV libéral. Donc, il reste avec une puissance dominante française, qu'il cherche à diffuser, ce qui fera d'ailleurs de la France une puissance importante à la fois économique, mais également artistique et culturelle. Ça va rester encore pendant plusieurs décennies. Et puis surtout parce que c'est un personnage qui donne à réfléchir et qui surtout va donner un certain nombre d'ambitions pour garder et finalement prendre son exemple.
Oui, et alors, c'est un personnage, mais vous l'avez évoqué à plusieurs fois, David Chantoran, c'est aussi une fratrie. Et alors, souvent, il semble, les membres de cette fratrie, être dans le sillage de Napoléon, mais il y en a un, paraît-il, Joseph, qui lui aurait joué un rôle relativement important et qui aurait aidé son jeune frère à réussir, par exemple. Quel est le regard de l'historien là-dessus ?
Les frères et sœurs ont des rôles tout à fait différents les uns des autres. Les deux que l'on peut qu'on puisse vraiment souligner, c'est effectivement Joseph, qui va devenir alternativement diplomate, avec une importance d'ailleurs en faisant signer un certain nombre de conventions, en particulier avec les États-Unis d'Amérique en 1800, avec la paix de Lunéville avec l'Autriche en 1801.
C'est lui qui a vendu la Louisiane aux
États-Unis. Alors non, en 1803, c'est vraiment Bonaparte. Et ensuite, en faisant la paix, comme je le disais, Joseph avec les Anglais en 1802, donc le traité d'Amiens. Mais Napoléon, lui, effectivement, a envisagé une grande politique en direction notamment des Antilles et des Amériques de manière plus large, en faisant effectivement cette vente de la Louisiane pour garder une partie de ces sommes et pour les concentrer sur ce qu'on appelait à l'époque le pétrole blanc, finalement, d'une certaine manière, le sucre. Et donc cette puissance sucrière qui était très importante à l'époque, eh bien Napoléon l'envisage comme une politique à part entière, et il a besoin de Joseph tout d'abord pour la partie diplomatique, et ensuite il en fera un roi de Naples, puis un roi d'Espagne, pour montrer que les Bonaparte sont installés. Mais l'autre personnage, qu'il faut d'ailleurs aussi évoquer, c'est Lucien. Lucien Bonaparte était un personnage qui avait, dans la famille, beaucoup d'idées politiques affirmées, et il a eu son importance parce que au moment où Bonaparte revient, où Napoléon revient d'Égypte, eh bien son frère Lucien était président d'un des conseils du directoire, et c'est grâce à son soutien, à son appui, que le fameux coup d'État des 18 et 19 Brumaire, donc des 9 et 10 novembre 1799, ont réussi en grande partie parce que Lucien était un personnage qui tenait ses troupes d'une certaine manière, ses députés, et qui a permis surtout à Bonaparte, à Napoléon, d'inverser une tendance qui était peut-être mal engagée.
Oui, donc la fratrie, au début, elle est très utile.
Oui.
Même si après, il renvoie l'ascenseur.
Alors, il va renvoyer l'ascenseur, mais comme Napoléon a un côté un petit peu...
Un peu égocentrique, quand même.
Oui, et puis surtout qu'il n'entend pas qu'on lui dispute ni son autorité, ni qu'on discute un certain nombre de ses décisions. Eh bien, lorsque ses frères, par exemple, comme Lucien, ou comme le plus jeune d'entre eux, qui est Jérôme, chercheront à faire des mariages sans son consentement, ça va grincer un petit peu les dents, et Napoléon va se fâcher avec eux. Jérôme reviendra dans le giron, mais Lucien va être fâché jusqu'en 1815, au moment des 100 jours.
Donc l'autorité de Napoléon, elle est quand même toujours présente à tout moment.
Elle est présente, et c'est aussi sa force.
Oui,
c'est
probablement.
Il a forgé son caractère dans l'adversité, notamment en étant le jeune Corse au milieu des autres cadets gentilhommes à Brienne, ce qui lui a valu un certain nombre de moqueries. Et ben, ça a forgé son caractère, ça va lui permettre d'accéder au pouvoir. Mais de l'autre, quand il sera face à une certaine adversité, en particulier de sa famille, il n'acceptera pas qu'on lui tienne tête.
Voilà, il ne faut pas plaisanter avec lui. Alors David Chantran, les cercles, ou le cercle, que faut-il dire ?
Le cercle Napoléon,
c'est l'association française. Il y en a qu'un. Bon, parfois, fait aussi des conférences sur Napoléon III. Alors, évidemment, Napoléon, c'est d'abord le premier, mais Napoléon III semble avoir d'abord... plus que semble, a joué un rôle totalement différent, probablement, dans la construction de la France. Et quel est votre regard là-dessus ? Parce que il a le même nom, mais enfin, c'est quand même pas la même personne. Il n'a pas fait du tout le même travail.
Non, et puis alors, vos auditeurs vont peut-être se poser la question, qu'est devenu Napoléon II ? Alors, pour simplifier, disons que Napoléon Ier et Napoléon II, pour résumer, c'est le premier empire. Napoléon Ier, celui dont on vient de parler. Napoléon II, c'est son fils qu'il a eu justement avec Marie-Louise, qui a été titré au départ roi de Rome, et qui n'a pas véritablement régné, même si un certain nombre de choses avaient été mises en place. On est donc là, à ce moment-là, en 1815, et cet enfant va mourir, mais c'est l'aiglon, cher à Rostand, il mourra en 1832 à Schönbrunn, dans ce palais doré,
cette prison dorée. Il a vécu à Vienne, je crois. Enfin,
exactement, près de Vienne. Et donc, c'est le neveu de Napoléon Ier, le cousin de cet aiglon, le neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte, le fils qu'avait eu Louis Bonaparte, donc le frère de Napoléon, avec Hortense de Bornay. Donc il y avait une double union des Bonaparte et des Beauharnais. Il y avait Napoléon, Joséphine, et puis donc la fille de Joséphine, Hortense, avait épousé un des frères
de
Napoléon.
Très compliqué tout ça.
Oui, mais pour dire que finalement, il fallait relier les familles entre elles, et que ce Louis-Napoléon, finalement, a repris le flambeau pour faire aboutir cette idée napoléonienne. Et il reprend le pouvoir de manière très légale, cette fois-ci, en 1848, après avoir fait deux premières tentatives de coup d'État qui ont échoué. Il revient aux affaires en 1848 en étant élu député, puis notre premier président de la République élu le 10 décembre 1848. Et c'est lui qui va rétablir l'Empire 4 ans après, en 1852, après avoir fait l'année précédente, en 1851, un coup d'État pour se maintenir au pouvoir. Vous voyez, ça rappelle des épisodes actuels.
Voilà, son arrivée est assez rocambolesque aussi, finalement.
Elle est très rocambolesque parce que il s'appuie sur un certain nombre de choses, à la fois l'héritage de son oncle, et puis aussi un nom qui rayonne,
oui,
et
un prestige
hors du commun, parce que au moment de la mort de Napoléon, la suite va être un peu plus difficile pour la France de l'époque. On se dit que tous les acquis de la Révolution sont un peu mis de côté, et il y a une génération qui arrive cette fois-ci dans les esprits, c'est la génération des romantiques. Hugo, Balzac, Lamartine, qui reprennent finalement l'héritage de Napoléon, disant « mais c'est un moment heureux, peut-être il y a eu des choses un peu terribles, mais de l'autre, on avait le rêve, on avait la puissance, on avait au moins une volonté au-delà du commun, et cette puissance romantique, eh bien, va emporter tout avec elle dans son sillon, et Louis-Napoléon va finalement s'appuyer sur cela pour arriver
au pouvoir. Il va, comme on dirait maintenant, surfer sur cette vague.
Exactement, et cette vague, il va s'appuyer dessus pour réaliser un grand nombre de réalisations, notamment...
Surtout économiques.
Économiques, alors effectivement, c'est la puissance des banques, c'est la puissance également du chemin de fer, c'est la puissance d'un certain nombre d'industries, mais... En regard avec cela, il y a aussi une grande politique sociale qui est menée par Louis-Napoléon, qui est un personnage qui a également une volonté, entre guillemets, socialiste avant l'heure.
Oui, alors ça c'est peut-être surprenant d'un Napoléon socialiste, mais je vous laisse la parenté de cette affirmation.
Exactement, et lui-même l'affirmait comme cela en étant un peu à l'avant-garde de ses idées pour montrer qu'il fallait effectivement de l'ordre, mais qu'il fallait également une égalité et des bienfaits sociaux pour tous.
On marque, David Chantran, une seconde pause.